Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors je vous signale que nous avons écrit dans le numéro de mai 2023 de notre journal Union Pacifiste un article intitulé « Philosophie de la guerre et de la désobéissance » au sujet de deux livres du philosophe Frédéric Gros. Ces deux livres s'intitulent donc « Pourquoi la guerre ?» et le deuxième « Désobéir ». Dans notre émission, nous allons entendre Frédéric Gros nous parler de ses livres, mais aussi de l'actualité de la guerre. Frédéric Gros est un philosophe, professeur de pensée politique à Sciences Po, Paris, et il est l'auteur de plusieurs essais, et il a même été l'éditeur de Michel Foucault dans La Pléiade. Ses livres intéressent les pacifistes. Pourquoi la guerre commence par cette interrogation, pourquoi les hommes se font-ils la guerre et depuis si longtemps? Et le livre « Désobéir » s'ouvre sur cette affirmation qui nous interpelle aussi. Notre problème n'est pas la désobéissance, c'est l'obéissance. Alors, écoutons déjà ce que nous dit Frédéric Gros de son dernier livre « Pourquoi la guerre ?». Il s'agit d'un enregistrement réalisé par son éditeur Albin Michel à la librairie Mola.
J'ai été très frappé au moment de la, à la fois de la déclaration de guerre par Vladimir Poutine, même s'il parle d'opération militaire spéciale, comme vous le savez, j'ai été très frappé par la manière dont, en Occident, en Europe particulièrement, les éditorialistes se sont fixés sur une formule qui était celle du retour de la guerre. La guerre revenait. Et c'est vrai que cette formule avait à la fois une espèce d'évidence, puisque effectivement on considérait qu'après tout on avait pu bénéficier en Europe depuis la fin de la guerre, avec la construction européenne même, d'une période d'accalmie, Et en même temps, on ne pouvait pas s'empêcher de se dire, mais au fond, la guerre n'a pas cessé avec 1945. Il y a eu des conflits partout dans le monde. Et ce qui a changé, surtout, ce sont les formes de la guerre. Il y a eu les guerres de procuration pendant la guerre froide. Il y a eu la guerre globale contre le terrorisme qu'on a connue pendant des années et des années. Et donc, l'idée, c'était de se dire, mais au fond, ce qui fait qu'on peut aussi facilement parler d'un retour de la guerre, c'est qu'une certaine forme classique, très classique, revenait. À savoir l'opposition quand même de deux États, avec une invasion caractérisée, avec une recherche de prise de territoire, avec l'affrontement de deux armées disposant quand même de ce qu'on appelle des armements tout à fait conventionnels, des chars, des blindés, etc., des noms de villes s'assimilant à des noms de batailles, des victoires, des défaites, des retraits. Et c'est vrai que cette forme-là, qui avait été la forme classique de la guerre pendant une très bonne partie de l'histoire de l'humanité, revenait. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'on a pu parler aussi facilement d'un retour de la guerre, pour dire qu'une certaine forme d'organisation des violences collectives avait à nouveau lieu ici. Dans l'énoncé même du titre « Pourquoi la guerre ?», il y a quelque chose au fond de très enfantin dans ce titre. Mais pourquoi la guerre ? Et je crois qu'une bonne part de la philosophie, c'est de prendre au sérieux les questions d'enfants, qui sont les questions en même temps les plus fondamentales et qui consistent quand même assez essentiellement à trouver que les choses ne vont jamais de soi, ne vont jamais de soi. Et on pourrait se dire depuis notre posture d'adulte que la guerre, mais enfin, c'est bien normal, que voulez-vous, l'humanité, avec ses défauts, avec ses vices, la guerre est consubstantielle à l'histoire humaine au regard de l'histoire. Mais je trouve que pourquoi la guerre, c'est ça. Et la philosophie, ça fait partie, me semble-t-il, de son histoire, de ses défis, de pouvoir répondre à des questions au fond très très enfantines et qui sont pourquoi la guerre, et une bonne partie si vous voulez, et je dis la philosophie parce que finalement les historiens, les sociologues assez vite vont donner des explications, mais si vous voulez, au-delà de ces explications, pour telle guerre précise, il y a quand même cette espèce de reste qui est que, voilà, mais enfin pourquoi, alors même qu'on pourrait se dire qu'on arrive au 21e siècle, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en passer par ces formes-là ? Il peut y avoir une dimension stratégique, et c'est vrai que ça a fait partie d'un certain nombre de grandes sagesses orientales, donc, finalement, de se poser la question de l'art de la guerre, et c'est... Je dis oriental, mais c'était même un titre de Machiavel. Machiavel aussi a écrit un art de la guerre. Donc il peut y avoir dans la philosophie une tentation technique qui consiste à dire, mais au fond, quels seraient les meilleurs moyens pour remporter une guerre et pour obtenir une victoire. Mais je crois que à côté de ça, il peut y avoir dans la philosophie aussi l'idée d'aller explorer ce qui, dans l'âme humaine, dans l'histoire des hommes, peut être considéré quand même comme un facteur explicatif, déclenchant. C'est-à-dire, quelles seraient les passions humaines fondamentales qui mènent à la guerre ? Et là, c'est vrai qu'on peut avoir, j'allais dire, un tableau qui est assez vite brossé. Assez vite, on a une trinité belligène qui est au nom de la cupidité, de la peur et de la vanité. C'est-à-dire les trois grandes passions de la guerre, cupidité, c'est-à-dire la guerre prédatrice. la guerre qui va permettre de conquérir des territoires qui peuvent avoir des ressources naturelles très importantes. Donc il y a cet aspect-là, évidemment. Il y a la peur aussi. C'est-à-dire qu'une des manières, des grandes causes d'entrer en guerre, c'est que, mais au fond, c'est l'autre qui va entrer en guerre contre nous. Donc, pour essayer de dénouer cette peur de l'ennemi, eh bien, on prévient par une entrée en guerre. La peur est aussi une passion tout à fait importante, etc., même si ça, on rentre après dans des espèces de logiques paranoïaques. C'est-à-dire, si on a peur, l'autre se dit « Ah bah tiens, il a peur, il s'arme, mais enfin, il devient dangereux aussi. » Vous voyez, ça finit par s'entrecouper et déclencher des guerres par une espèce de cycle vicieux de la peur qui peut exister. Et puis, il peut y avoir aussi eh bien, quelque chose comme la quête de gloire, les guerres de prestige. C'est-à-dire, il y a aussi pour les États l'idée qu'ils font la guerre pour montrer qu'ils peuvent la faire, qu'ils ont des armées puissantes pour pouvoir mettre à leur profit des conquêtes prestigieuses. Je veux dire, la guerre, c'est quand même, et ça a toujours été, un élément pour les États de gloire, de prestige, etc. Et on retrouve ces trois éléments pour l'Ukraine. C'est-à-dire, vous pouvez dire après tout que la Russie a eu peur que l'Ukraine, finalement, n'adhère trop vite à l'Europe et que les forces de l'OTAN se rapprochent des frontières russes sans que l'Ukraine soit un État tampon. Donc on peut dire qu'il peut y avoir de la peur, même si ça peut nous sembler un petit peu exagéré. On peut dire aussi que c'est une manière pour la Russie de renouer avec son histoire impériale de conquête. Et puis, troisièmement, se dire qu'après tout, oui, l'Ukraine, c'est quand même des terres à blé absolument formidables, c'est des ressources en gaz, etc. Voilà, donc vous pouvez avoir les trois éléments qui s'entremêlent et qui décident d'une guerre, oui, au niveau des passions.
Bien que je sois pas du genre chochotte, à m'effrayer comme un moineau, à peine il vente, à peine il flotte, du genre à faire mon numéro d'inquiet, de voyante extra-lucide, plantée devant sa boule de cristal. Je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule, tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serais, disons, pas franchement, d'un optimisme forcené. Bêtement vu les demain qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai ces bizarres, comme scellé tout au fond de moi, l'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, et il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qui illumine nos aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenin ou en Haïti comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir, la terre qui saigne un peu partout. Mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi quand il est parmi à bien plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir, où dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord, c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline. C'est toujours relever le front quand les autres courbent l'échine. L'espoir, c'est prendre la parole sans demander la permission. Et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins, ceux qui prétendent inéluctables le ventre tordu par la faim, s'est cogné du poing sur la table, s'est montré son cul aux sinistres qui possèdent les continents. C'est dire leur fait à leur ministre, qu'il soit larbin ou président. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours, de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle, que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune, debout rebelle, et que ça n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur des fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Après cette chanson de Michel Buller, nous reprenons la présentation du livre de Frédéric Gros, Pourquoi la guerre ? Présentation que Frédéric Gros a enregistrée chez son éditeur Albin Michel.
L'histoire de la guerre est à ce point consubstantielle à l'histoire de l'humanité qu'on pourrait désespérer de la possibilité même de la paix, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'une expression qu'avait employée un certain nombre de philosophes était celle de paix des cimetières, pour dire que finalement la seule paix qui pourrait être possible, c'est celle qu'on gagne par anéantissement réciproque des ennemis. Quoi. La seule paix, c'est la paix, des cimetières. Mais qu'au fond, à partir du moment où vous avez de l'humanité, vous avez de la guerre. Je crois que cette vision désespérante doit être un peu tempérée. Alors, on peut prendre deux références qui, je dis pas qu'ils donnent espoir, parce qu'il s'agit pas pour la philosophie de continuer à espérer malgré tout, et si ce sont de faux espoirs, la philosophie étant une entreprise de vérité, n'a pas du tout à les agiter, donc c'est pas du tout ça. Mais je crois, premièrement, que quand Kant, par exemple, dans son traité de paix perpétuelle, nous dit au fond, il n'y aura de paix véritable que quand tous les États seront de vraies républiques, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce qu'il oppose à la République, c'est la tyrannie, et le propre de la tyrannie, c'est précisément que vous avez un dirigeant qui considère que son peuple est sa propriété. Et quand je dis qu'elle est sa propriété, je veux dire qu'il peut en user et en abuser. Et une manière d'en abuser, c'est de s'en servir pour faire des guerres. Si les mêmes qui allaient partir en guerre devaient décider si effectivement des guerres devaient être ou non déclenchées, je pense que ça permettrait un sérieux ralentissement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de part maudite de la propriété qui joue dans le déclenchement de la guerre. Je me sers d'un peuple, j'en abuse en l'envoyant se faire tuer au front, et au fond, c'est un peu la marque de la tyrannie, la guerre. Et les républiques n'auraient pas, si vous voulez, de raison à se mettre particulièrement en guerre. Et la deuxième référence, c'est celle de Spinoza, quand il dit, ou je lui fais dire, c'est une idée qu'on peut exploiter, qu'au fond, ce qui est le plus naturel entre les hommes, c'est quand même la paix. Je veux dire, naturellement, mais si on entend par nature ce qui fait que chaque chose va au bout de sa propre perfection, bah, les hommes seraient plus parfaits, évidemment, s'ils étaient en paix. C'est-à-dire, il faut retrouver ce sens de la nature qu'on trouve de Spinoza, qu'on peut employer assez spontanément quand on dit d'un pianiste qu'il a un jeu naturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se fait dans la fluidité, dans l'harmonie, dans la composition. Alors, on peut monter en disant que quand dans une institution ça marche bien entre tout le monde, c'est qu'il y a de la nature, c'est-à-dire il y a de la perfection. Et de la même manière, entre les peuples, il pourrait y avoir de la nature. Mais ce qui va bloquer, c'est des tensions culturelles, ce sont des colères accumulées au fil des générations qui vont remonter, etc. Donc des éléments proprement culturels au sens de désespérément historique. C'est-à-dire des haines, des rancœurs, etc., qui font qu'à un moment, on va accepter les logiques de haine. Mais très profondément et très naturellement, bien sûr que les hommes sont faits pour vivre en paix, au sens où ils auraient en paix une puissance de vie supérieure. C'est assez lumineux et évident comme pensée. Mais ce qui bloque, c'est notre histoire, ce sont les humiliations passées, ce sont les délires des uns et des autres. Je crois que un des rôles de la philosophie, c'est de rappeler ça quand même. Quand je dis que c'est de rappeler ça, c'est que ça permet de nous défaire d'une espèce de module d'explication, je trouve finalement assez facile, qui consiste à dire que quand il y a la guerre, c'est le retour de ce qu'il y a en l'homme de pulsions animales, de dérives bestiales, etc., et que la civilisation n'a pas pu précisément tarir toute cette agressivité qui serait notre fond bestial. Mais c'est comme si la guerre, c'était le retour de la nature. Mais pas du tout, pas du tout. La guerre, c'est de la culture mal digérée, c'est de la culture, c'est de la rancœur, etc.
À la sortie de son livre « Pourquoi la guerre ?», en 2023, le philosophe Frédéric Gros a été interrogé sur une radio au sujet de la guerre actuelle en Ukraine.
Ma première question est la suivante. Pour quelles raisons les Russes ont-ils pendant longtemps éviter d'employer le mot « guerre » et parler d'une opération spéciale en Ukraine.
Alors c'est vrai qu'ils ont parlé d'opération militaire spéciale. Parler de guerre, ça pouvait vouloir dire parler de mobilisation possible. Et je pense que dans le rapport au peuple russe, parler d'une opération militaire spéciale, c'était aussi une manière de rassurer les populations en disant « on enverra des contingents en nombre limité et on n'est pas dans le cadre d'une mobilisation totale ». Ça, ce serait la première explication. Et d'autre part, on doit bien dire quand même que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a très peu, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a très peu employé ce terme de guerre. Même pour tout ce qu'on appelle maintenant la guerre d'Irak, le conflit en Libye, etc., on parlait d'intervention. C'est-à-dire que le vocabulaire de la guerre a été un peu discrédité. Et comme on avait décidé qu'on était devenu des nations adultes, civilisées, qui ne se feraient plus la guerre et qui régleraient leurs différends avec l'aide d'institutions internationales comme l'ONU, évidemment, parler de guerre, c'est faire éclater l'échec de ce règlement pacifique des différends entre États. Donc je crois que c'est un peu les deux raisons qu'on peut donner.
Alors on va revenir naturellement à l'Ukraine parce que c'est l'actualité, mais c'est le concept même de guerre que vous interrogez dans ce livre, et vous vous inscrivez en faux contre cette idée d'un retour de la guerre, comme si la guerre avait cessé en 1945. Or, pour vous, elle n'a pas cessé.
Elle n'a pas cessé. Alors, c'est vrai que la date de 1945, c'est un peu le moment, 45-46, où la guerre devient à la fois interdite et impossible. Interdite, c'est-à-dire qu'effectivement, on fonde des institutions internationales, on pense à l'ONU, qui sont là pour mettre en place des mécanismes d'empêchement de la guerre, mais avec un Conseil de sécurité qui, comme vous le savez, va un peu fausser le jeu. Donc, officiellement, la guerre est devenue interdite, c'est-à-dire un moyen de régler les différends interétatiques proscrits, et deuxièmement, impossible, par la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que l'invention de l'arme nucléaire a eu cette espèce d'effet. C'est un général, le général Le Borg, qui écrivait « La guerre est morte à Hiroshima ».
À Hiroshima. Voilà, à partir d'Hiroshima, on ne peut plus faire la guerre de la même manière.
Oui, parce qu'on avait inventé une arme qui est la première arme qui est là moins pour être utilisé afin de remporter une guerre, ce qui est normalement la destination naturelle des armes, que pour empêcher les guerres. C'est-à-dire, on a une arme nucléaire, mais qui est faite pour empêcher la guerre, c'est ce qu'on appelle
des armes de dissuasion. Et pour dissuader, mais on voit quand même que Poutine l'utilise abondamment dans sa rhétorique, en tout cas.
Bien sûr, ah ben oui, de toute façon que le nucléaire dans la rhétorique soit agité comme une espèce de spectre où on fait voir la possibilité d'une guerre totale, j'allais dire, c'est une menace qu'il faut rendre crédible, c'est-à-dire donc évidemment qu'il agite comme ça ce spectre pour faire valoir la possibilité d'une terreur totale.
Il enleva ses vêtements de fer, il enfila un pantalon civil, il déroula une bande molletière et pendit à un arbre son fusil. Par la bretelle, jeta son casque dans les marguerites, il traversa une ville déserte, l'ombre dans la rue coupée par la lumière. L'ombre dans la rue, coupée par la lumière. Il se baigna le soir dans un méandre où les poissons qui nagent se posent au fond des courbes d'eau noire pour pondre. Puis il se sécha sur l'herbe rose et tendre. Il pensait à sa mère inquiète, aux moissons qui ne seront pas faites, aux coquelicots, aux trèfles et aux fourmis, aux coquelicots, aux trèfles et aux fourmis. Il rejoignit derrière un tas de pommes la jeune fille d'une ferme sans homme. Il en oublie un peu son amertume et il s'endort pour la première fois depuis longtemps sur des épaules et sur des seins de plumes. À l'est parfois les canons s'allument. Il se leva très tôt par habitude. Il se leva très tôt par habitude. C'était l'été, au mois d'août, un dimanche. Sonnent les cloches à l'horizon soyeux. Il mourut par une matinée blanche, mis contre un mur, un bandeau sur les yeux. Mis contre un mur, un bandeau sur les yeux.
Avec cette chanson de Gilles Serva, nous saluons tous les déserteurs de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Et nous reprenons maintenant l'entretien du philosophe Frédéric Gros sur Radio J au sujet de son livre « Pourquoi la guerre ?».
Alors vous dites « la guerre n'a pas cessé », il y a eu aussi la guerre froide qui a duré plus de 50 ans.
Il y a eu la guerre froide. Après la guerre froide, donc, où il y avait quand même des guerres, mais qui étaient des guerres par procuration, parce que la guerre froide, c'était le fait que les deux blocs soviétiques et américains ne s'affrontaient jamais directement, mais profitaient de toutes les reconfigurations par voie de guerre de décolonisation, de remise en cause des tutelles impériales pour soutenir tel ou tel camp. Donc, on n'a pas hérité en Asie, en Afrique, de se faire la guerre. Et puis, ensuite, il y a eu pendant 10 ans, entre la chute du mur et les attentats de 2001, une petite dizaine d'années où on s'est dit, ça y est, la paix va advenir. Et ensuite, il y a eu la guerre globale contre le terrorisme. terrorisme.
Voilà, il y a eu aussi la guerre contre le terrorisme islamiste qui a culminé effectivement avec les attentats du 11 septembre sur lesquels vous revenez dans votre livre.
Oui, parce que c'est vrai qu'on était, mettons, en Europe et en France, on n'était pas en guerre au sens où effectivement il n'y avait pas de tentative de violation des frontières ou d'attaque, d'agression directe, au sens classique avec des armes conventionnelles, mais on était dans une époque dans laquelle on a cessé de lancer des processus de sécurisation dans lesquels on s'est habitué au contrôle, on s'est habitué à une surveillance généralisée qui était due au fait que voilà, qu'on était lancé dans une guerre contre le terrorisme et qui prenait des formes évidemment tout à fait spécifiques et pas conventionnelles, à savoir deux armées qui s'affrontent de manière conventionnelle.
C'est-à-dire, vous admettez le fait que le terrorisme, c'est une nouvelle forme de guerre?
Oui, c'est une guerre en plus d'autant plus efficace et terrible qu'au fond, la victoire, c'est l'acte terroriste en lui-même. C'est-à-dire le fait simplement qu'un acte terroriste ait eu lieu et ait été scénarisé jusqu'au bout constitue une victoire en soi. Oui, je trouve que... Mais c'est pas une forme classique, c'est pas une forme conventionnelle. Et c'est vrai que quand on a parlé du retour de la guerre, c'était à la fois d'une extraordinaire naïveté, parce que, alors, des fois, on rajoutait sur le sol européen, mais enfin, il y avait quand même eu l'ex-Yougoslavie, etc., où il y avait eu des hostilités meurtrières. C'était donc à la fois très naïf, parce que c'était quand même ne pas voir les autres guerres ou les autres formes, mais c'était en même temps juste, parce que une certaine forme de la guerre avec franchissement de frontières, avec quand même des déclarations officielles. Il y a eu, on dit, vous l'avez rappelé lui-même, une opération militaire spéciale, mais enfin un discours de Poutine disant, eh bien, nous allons envoyer des troupes conventionnelles, nous allons franchir les frontières de l'Ukraine, et pour un certain nombre de raisons, présence de néo-nazis, menace de l'OTAN, tout ce que vous voulez, alors raison qu'on jugera fallacieuse, impertinente, tout ce que vous voulez, mais il est dans un schéma qui était un schéma qu'on n'avait plus connu depuis de nombreuses décennies, c'est-à-dire un schéma classique avec, si vous voulez, un schéma de guerre interétatique.
Alors vous écrivez, Frédéric Gros, « La guerre moderne est urbaine, elle se gagne dans les rues. Ainsi, pour chaque soldat ou patriote ukrainien terré dans sa maison, un fusil à la main dans Kharkiv ou dans Kherson, au printemps 2022, il s'agissait bien de tenir bon le plus longtemps possible. » Mais là aussi, vous admettez parfaitement que la guerre urbaine, la guerre dans les rues, la guerre où on s'en prend à des civils, c'est aussi la guerre. Pour vous, vous intégrez cela?
On est un peu obligé de l'intégrer parce que c'est devenu...
Enfin, vous l'acceptez.
Terrible. Je l'accepte. Alors, il est vrai que dans notre... dans nos représentations dominantes de la guerre, c'est-à-dire ce qu'on avait pu apprendre à l'école, etc., qu'est-ce qu'on avait? On avait deux armées qui s'affrontaient le plus souvent sur des plaines, hein, sur des plaines, et on attendait ce moment un peu magique, mystique, très solennel, où la décision, ce qu'on appelait la décision, allait être d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai, et c'est un chiffre terrible, qu'au début du XXe siècle, quand on prenait les guerres, cela signifiait 90% de militaires pour 10% de civils tués.
Et là, il faudrait inverser.
C'est complètement inversé. C'est 90%. Les civils sont les plus menacés maintenant. Parce que les guerres sont urbaines, parce qu'effectivement, les techniques de destruction sont devenues beaucoup plus massives. Et effectivement, il s'agit, mais c'est une tactique qui a déjà été utilisée parce qu'on n'a pas attendu la guerre russo-ukrainienne pour lancer des bombes sur les villes. Hein. Ça a été aussi, pendant toute la pensée, rappelez-vous, partout, des incendies de Londres, etc. Il s'agit de terroriser les populations afin de l'emporter. C'est une des manières de l'emporter, c'est aussi de décourager les populations. Et c'est vrai qu'avec le cas ukrainien, on s'est retrouvé face à une surprise quand même, c'est-à-dire des capacités de résistance qui n'avaient pas été prévues. C'est-à-dire que si vous réécoutez les éditorialistes du 24-25 février, tous étaient quand même prêts à admettre que les forces russes allaient laminer l'Ukraine. Et si vous voulez, la surprise de la résistance a été quand même a été très importante et je veux dire assez magnifique.
Et en même temps, vous dites, n'est-il pas raisonnable de penser qu'un jour, il faudra s'asseoir à la table des négociations et donc le temps d'un règlement de paix et d'une signature, faire tenir la fiction d'une égalité entre les belligérants. Dans le cas de l'Ukraine, c'était au début quand même la position d'Emmanuel Macron. Il a évolué depuis un peu. Quoi qu'on ne sait pas très bien où il en est aujourd'hui, c'est un peu du en même temps. Mais au début, il était pour « il ne faut pas humilier la Russie, il faut arriver à un moment où le compromis va être possible ». Et vous dites la même chose ?
Je dis la même chose, c'est-à-dire que quelle serait l'alternative ? Aux négociations. L'alternative serait
la
une reddition complète, c'est-à-dire une capitulation sans condition. Est-ce qu'on est prêt à imaginer que la Russie, un État qui dispose de l'arme nucléaire, capitule sans condition ? Sauf changement de régime, évidemment. Avec le même, pour moi, ça me paraît inimaginable. Alors peut-être que mes ressources d'imagination sont assez limitées, mais je pense effectivement que ça s'est toujours passé comme ça. C'est-à-dire qu'il faudra bien, à un moment, signer ce qu'on appelle des accords de paix. Parce qu'il faut bien se souvenir quand même qu'on peut avoir tout l'imaginaire qu'on veut de la guerre, mais la guerre, sérieusement, c'est d'abord un certain état juridique entre deux États. C'est-à-dire que une guerre se commence avec une déclaration qui a été faite par Vladimir Poutine le 24 février et se termine par ce qu'on appelle un règlement de paix, un accord. Alors là, on dit, mais au fond, les Russes sont allés trop loin dans les exactions, dans les crimes de guerre pour qu'on accepte ces négociations. Mais moi, je vois mal comment on pourrait faire autrement. Alors on me dit, mais c'est d'une hypocrisie insigne. Oui, mais si vous voulez, le point de vue, quand je dis ça, je ne dis pas que c'est moral et que ce serait moral. Évidemment que c'est immoral de négocier avec un État qui a été un agresseur et, si vous voulez, un agresseur atroce.
Et il y a, plus une progression dans l'horreur de la part des Russes, la frappe russe de Dnipro qui a fait plus de 40 morts civils, des centaines de blessés, sans parler des horreurs de Wagner. Et alors tout ça, il faudrait passer l'éponge sur tout ça.
C'est ce qu'on a fait, pendant toute l'histoire. C'est ce qu'on a fait pendant toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas, effectivement, si vous prenez l'Allemagne ou le Japon, où il y a eu des capitulations sans condition. Mais si vous voulez, là on parle quand même de la Russie, qui est un État qui tient debout, qui dispose de l'arme nucléaire. Et vous allez me dire, mais c'est d'une hypocrisie atroce d'imaginer qu'on puisse passer par pertes et profits toutes ces horreurs. Et vous avez bien raison, mais c'est un point de vue qui est un point de vue moral. J'allais dire, le point de vue de l'historien dit qu'au fond, à un moment, il faudra un passage par la diplomatie. Voilà, si vous voulez, moi je suis dans une
D'accord,
difficulté.
D'accord, mais qu'est-ce que vous faites de cette progression qui n'a pas l'air de s'arrêter ? Et je parlais des horreurs de Wagner, avec Wagner, milice militaire privée.
Bien sûr.
Ça aussi, c'est nouveau, ça n'a jamais existé. Et on voit cette milice échapper totalement aux lois de la guerre. Il y a une transgression permanente de ces lois.
Ah, il y a des transgressions sans cesse.
C'est nouveau ça dans le...
Je suis bien... Enfin, c'est nouveau, c'est vrai que ce qui nous a... les transgressions de ces lois de la guerre. On parlait tout à l'heure du terrorisme. Après tout, accepter de considérer un acte de terrorisme comme un acte de guerre, ça signifie quand même, ce qu'on est obligé d'accepter historiquement quand même, c'était un acte de guerre contre un certain mode de vie, un certain nombre de valeurs, etc. On avait quand même une manière de faire la guerre où il s'agissait de tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, ce qui était le contraire même, si vous voulez, de la définition classique de la guerre. Si, parce que a priori, quand on parle de guerre, on parle aussi, vous avez entendu souvent cette expression, de crime de guerre. Si l'expression crime de guerre peut avoir un sens, c'est qu'on accepte l'idée qu'on ne tue pas n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, etc. Et cela dit, ça tremble toujours un peu. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les règles de la guerre sont transgressées allègrement. Alors vous me dites, C'est nouveau. Oui, c'est vrai que c'est particulièrement et atrocement marqué dans ce conflit. Mais après, si vous voulez, la question que vous me posez, je suis très mal à l'aise avec cette question. Vous me dites, mais si vous acceptez de négocier, alors ça veut dire que tout ça, on oublie. Oui, il y a ce qu'on appelle dans tout traité de paix, il y a des clauses qu'on appelle des clauses d'amnistie. Oui. Faire la paix, c'est accepter de faire comme si on allait oublier. Mais c'est terrible, etc.
On n'en est pas là parce les Russes agitent la menace d'une guerre totale. Sergueï Lavrov a dit il faut maintenant une guerre totale. Et puis, il y a le fait que quand Poutine dit qu'il n'a aucun doute sur l'issue de la guerre avec l'Ukraine, il faut le croire sur parole.
On est dans des montages où on est obligé de le croire pour pouvoir, si vous voulez, le problème c'est celui de la crédibilité, c'est-à-dire qu'une menace doit être crédible. Je ne dis pas que ça arrivera, mais je dis que pour empêcher que ça arrive, on est obligé d'y croire. Et c'est une espèce de montage un peu qui peut... C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à chaque fois à dire c'est du bluff, etc. Il faut prendre ça au sérieux. Alors, ça ne signifie pas que je pense qu'ils vont utiliser l'arme nucléaire, mais je dis que pour empêcher cet usage, on est obligé de prendre au sérieux cette menace de l'utiliser. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que ça se fait. Et voilà, après, pour ce qui est de l'issue de la guerre, quand Poutine dit qu'effectivement, il n'a aucun doute sur l'issue, je veux dire, Zelensky dit la même chose aussi. C'est à la fois... C'est à la fois un élément de discours, de propagande qui fait tenir quand même les troupes et en même temps, c'est une conviction. Le problème, si vous voulez, quand vous me dites est-ce qu'on va passer aux négociations, c'est de savoir surtout est-ce que l'Ukraine, parce que si on passe aux négociations, ça veut dire forcément que l'Ukraine accepte de se dessaisir d'une partie de son territoire, c'est-à-dire de toutes les régions qui sont... Après, c'est une histoire politique de rapport de force. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça, oui ou non ?
La balade de la désescalade, il n'est pas trop tard pour commencer. Plus toutes ces salades qui retardent la venue du jour de clarté. La 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 la. Croisade de la désescalade, avis à tous ceux qui veulent monter pour Au sortir de la panade, des frites et des grillades, un peu moins chaque jour et c'est gagné. La 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 la. C'est la guerre des nerfs, tous les jours sur cette bonne vieille terre, sur les prairies de la Normandie, les vaches mâchent et les vaches chient, et dans les bistrots du vieux Paris, on en fait autant, avec esprit dans les yeux où le rouge et le jaune se mêlent en commente, les tout dernières nouvelles. La douce sérénade de la désescalade contre la fanfaronnade de l'absurdité. La désescalade, pourquoi est-ce qu'on tarde? Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? La la la.
Après cette chanson de Graham Allwright qui prône la désescalade, nous écoutons à nouveau le philosophe Frédéric Gros au sujet de son livre « Pourquoi la guerre ?». Le journaliste de Radio J, comme vous l'avez entendu, a essayé de faire condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et nous écoutons maintenant Augustin Trapenard qui, dans l'émission « La Grande Librairie », demande à Frédéric Gros, ce qu'il faut entendre par une guerre juste.
Qu'est-ce que ce serait, une guerre juste, pourtant que ce soit possible ?
C'est vraiment une question qui a été assez décisive et presque douloureuse pour la philosophie. Pourquoi ? Parce que au départ, si vous voulez, on est pris entre deux sens d'abord de la justice, qui est soit un sens très moral, donc la justice c'est ce qui est bien, et donc vous avez l'idée qu'une guerre juste c'est une guerre qui va se poursuivre pour de bonnes raisons, et qui va donc distinguer, si vous voulez, un juste d'un injuste. Et puis vous avez un sens qui se construit ensuite et qui est beaucoup plus formel et qui consiste à dire qu'une guerre juste, au fond, c'est surtout une guerre qui va respecter un certain nombre de règles, un certain nombre de protocoles. Et c'est vrai que cette idée qu'une guerre pourrait être juste du seul fait que ce soit, par exemple, un État qui la décide, eh bien tout ça, si vous voulez, il y a quelque chose de la culture européenne qui s'est joué là-dedans. Il se trouve que le XXe siècle a rendu les guerres injustes parce que précisément quelque chose de profondément inhumain s'y jouait. Alors quand je dis inhumain, c'est qu'il y avait un aspect qui devenait vraiment trop industriel, on parlait de boucherie, etc. Et alors que la guerre a quand même toujours représenté, si vous parliez des relations avec la littérature, mais enfin les premiers grands textes de l'Occident, l'Iliade, c'est des textes de guerre. C'est-à-dire que la guerre a quand même représenté une matrice littéraire et même une matrice morale.
Justement, dans le regard que l'on porte sur la guerre, Frédéric Gros, depuis le début du conflit, pour cette guerre effectivement en Ukraine, il y a eu dans le monde occidental quand même la tentation d'identifier deux camps. On le voit bien, hein, celui du bien et celui du mal, et donc à envisager cette guerre sous l'angle de la morale. Quelle question est-ce que vous, philosophe, ça vous pose ?
Si vous voulez, c'est la philosophie a automatiquement un petit problème avec ce qu'on appelle le manichéisme. Pourquoi ? Parce qu'on préfère quand même aller explorer la racine du manichéisme dans le cœur humain lui-même, plutôt que de le distribuer, même si effectivement ici vous avez un dispositif avec un agresseur identifié et un agressé identifié.
C'est la question que j'allais vous poser.
Oui, évidemment.
Est-ce que c'est encore possible en fait de ne pas moraliser une guerre comme celle-ci, quand on sait par exemple que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale?
Moi, je pense qu'il faut se poser la question autrement, c'est-à-dire jusqu'à quel point l'hypermoralisation de la guerre ne va pas finir par constituer un frein à la construction diplomatique de la paix. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous êtes obligé de dire que si vous construisez une paix diplomatique, il va falloir construire la fiction d'une hypocrisie monstrueuse, je veux bien, mais la fiction d'une égalité entre les belligérants. Vous êtes obligé, vous voyez? Et si... Si vous hyper-moralisez la guerre, je trouve qu'à un moment, il peut se dessiner une pente qui peut gêner en tout cas la philosophie, qui est l'assurance d'être du bon côté. On est obligé de dire que évidemment qu'il y a un agresseur et un agressé, ça il n'est pas question. En plus, c'est d'une évidence totalement intuitive. Mais vous vous rendez bien compte que quand vous moralisez à outrance, vous ouvrez la voie à un règlement de paix difficile. Pourquoi ? Parce que si vous diabolisez votre ennemi, vous considérez qu'on ne négocie pas avec le diable. Je veux dire, à ce moment-là, c'est. Alors après, effectivement, qu'il y ait une dissymétrie entre les deux, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je dis, pour moi, il y a un risque qui est celui de la diplomatie qui peut être un peu freiné par ça, je trouve.
Dans son livre « Pourquoi la guerre ?», Frédéric Gros écrit « L'idée chrétienne d'une guerre, entre guillemets, de juste cause, introduit une inégalité morale entre les belligérants, le bon et le mauvais, le justicier et le criminel. Alors la paix ne peut plus avoir comme condition que la capitulation totale de l'ennemi et sa destruction complète. » Et Frédéric Gros ajoute, en faisant apparaître la guerre comme un combat du bien contre le mal, elle pourrait cependant autoriser implicitement un déchaînement de violence illimitée contre les représentants de la barbarie, exigeant leur anéantissement absolu. Et au sujet de la guerre actuelle en Ukraine, Frédéric Gros précise, le risque de cette ultra-moralisation de la guerre, c'est qu'à force de faire du maître du Kremlin un diable en personne, on ne puisse exiger la fin de la guerre que sous la forme d'une capitulation, d'une reddition. Encourager alors un jusqu'au boutisme militaire qui pourrait conduire à un désastre général. Car les guerres idéologiques sont les plus terribles. Aucune négociation n'est possible quand ce sont des visions du monde opposées qui s'affrontent. Et Frédéric Gros conclut d'ailleurs... Par cette phrase, c'est toute notre culture de la haine et de la revanche mauvaise, de la peur et de l'arrogance méchante, qui nous retient au bord de la paix. Cette dernière étant toujours le triomphe de la joie contre les passions tristes. Dans l'émission « C'est politique » du 29 janvier 2023, Frédéric Gros analyse d'ailleurs le sentiment des soldats qui doivent se battre pour des valeurs.
Après, le problème qui a été notre problème aussi, c'est que vous êtes obligé de dire que votre raison de vivre est la raison pour laquelle vous seriez prêt à mourir aussi. C'est-à-dire que toute valeur que vous posez en tant qu'elle est au-dessus de vous va signifier que votre vie simplement humaine, vous seriez prêt à la sacrifier pour garder cette... Donc je pense que ce discours-là fait partie d'une espèce de noyau un peu obscur, quelque chose comme la part maudite de la morale qui fait que toute grande valeur ou morale ou religieuse peut à un moment exiger le sacrifice de celui qui la porte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui m'a vraiment frappé dans le discours de Vladimir Poutine, c'est que j'y retrouvais, pardon avec mes références, mais vous avez la parole de Kant qui dit « Si les tyrans font aussi facilement la guerre, c'est qu'ils considèrent qu'ils sont les propriétaires de leur peuple. » Or, dans l'idée de propriété, vous avez l'idée du droit d'user et d'abuser. C'est ça qui fait de vous un propriétaire, c'est que vous pouvez abuser. Et je trouve qu'en tant que despote, en tant que tyran, on abuse de son peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été dit, c'est par centaines, milliers, on compte pas. On en fait de la chair à canon parce que, après tout, ce peuple est à moi, j'en suis le propriétaire et j'en abuse.
Ça, c'est le discours du tyran, du despote. Mais Gallagher, comment la société russe perçoit ce discours?
C'est difficile de répondre à cela de manière définitive. Il y a des sondages, il y en a un notamment qui a été publié par un institut qui est réputé fiable, c'est l'Institut Levada, et il affirme, vous voyez le chiffre, que 71% des Russes sondés donc soutiennent l'opération spéciale en Ukraine. Pourtant, il y a de temps en temps, alors ils sont à peine perceptibles, certaines formes d'opposition ou de désaccord, et là je vous renvoie à un très bel article de Benoît Vidkin dans Le Monde cette semaine, qui va à la rencontre notamment d'une femme qui dépose une fleur au pied d'une statue à la mémoire d'une grande poétesse ukrainienne. Ça se passe à Moscou, et elle explique au journaliste qui l'interroge qu'elle fait cela en pensant à son fils, et je la cite, elle dit « Je ne veux pas qu'il vive dans un pays semblable à l'Iran. Je ne veux pas que les enfants ukrainiens de son âge continuent à mourir. » Mais Benoît Vidkin, donc l'auteur de cet article, conclut en affirmant que ses paroles et ses gestes, je le cite, « ne sont pas de rébellion, mais ont les accents du désespoir. »
Comment vous entendez ça, Frédéric Gros?
Ben j'écoute, je suis très pris par ce qui a été dit, et je trouve que ce sont, c'est vraiment des actes d'un courage extraordinaire, parce que là, on voit vraiment que désobéir ici, mais je suis lâche, mais ça au moins je peux le faire. Je trouve que c'est une phrase qui est magnifique, parce qu'elle montre quand même que qu'on est quand même pas totalement des robots soumis,
déshumanisés.
La désobéissance, c'est toujours à un moment un principe d'humanité.
Il était à Teruel, et à Guadalajara. Madrid aussi le vit, au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore, faudrait le demander au mort. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds et les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid. L'homme m'a dit, écoute-moi. Je vais te poser une question, la vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur, j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, couper ses liens, ton enfant tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir. Ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Il m'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant je puis le dire, pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dit mourir. Pour des idées, ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire.
mourir et mon père est vivant. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama.
Après cette chanson émouvante de Lenny Escudero, Vivre pour des idées, chanson qui rend hommage à son père désobéissant, nous allons parler maintenant d'un autre livre du philosophe Frédéric Gros, qui a eu d'ailleurs un grand succès. Il s'agit du livre Désobéir. On sait que la principale obligation pour les hommes recrutés dans l'armée est l'obéissance. Obéissance sans discernement au chef et à ses ordres. Frédéric Gros écrit: cette obéissance militaire demeure cependant marquée au sceau d'une indépassable ambiguïté. D'un côté, elle est admirable, exigeante, elle élève celui qui s'y soumet. De l'autre, elle est automatique, bornée, répondant au cliché de Voltaire décrivant dans son Candide de parfaits automates. L'obéissance militaire s'honore en effet d'être inconditionnelle, sans discussion, aveugle. Et Frédéric Gros ajoute: à l'armée, le soldat est sévèrement discipliné, l'insoumission est fortement réprimée. C'est à ce point qu'on menaçait parfois les enfants incorrigibles de les envoyer à la Légion pour apprendre à obéir.
Aujourd'hui, désobéir, c'est un acte d'humanité. Un acte d'humanité parce que, depuis trop longtemps, nous avons appris à obéir comme des machines. Il faut apprendre à désobéir, déjà parce que on va trop vite en pensant que si on obéit, c'est parce qu'on a peur d'être sanctionné ou peur d'être seul. Il se peut que dans notre obéissance se joue une certaine part quand même de jouissance. Peut-être que obéir, on aime ça, ou alors, si c'est pas de la jouissance, il y a peut-être aussi de l'inertie, du conformisme. Pourquoi est-ce qu'il faut réapprendre à désobéir? Parce que il faut d'abord essayer de travailler en soi, ce qui fait qu'on obéit et qui relève d'une complaisance. Il faut réapprendre à désobéir. Oui. Alors, au départ, il ne s'agit pas non plus de faire un éloge systématique et désordonné de la désobéissance en disant « désobéir, c'est toujours bien », etc. Les formes d'incivilité sont insupportables. Je ne fais pas non plus, évidemment, un éloge du crime, etc. Mais je trouve qu'il y a une certaine manière d'obéir qui est « j'obéis parce que ça me déresponsabilise ». Quand j'obéis, je peux dire, au fond, c'est moi qui le fais, sauf que je ne suis pas l'auteur de ce que je fais. Les nouvelles formes de désobéissance, elles sont multiples, parce qu'elles peuvent prendre même la forme de mode de vie. Au fond, qu'est-ce que c'est que la leçon de Notre-Dame-des-Landes? C'est le fait d'avoir constitué un mode de vie aussi en désobéissance. Parce qu'il n'y avait pas simplement le fait qu'on allait occuper un terrain pour pouvoir combattre un projet de construction d'aéroport. Ce qui s'est greffé derrière, c'est un certain mode relationnel, un certain mode de vie, un certain mode même d'auto-désignation. On s'appelle tous Camille, on crée des dispositifs, et ça, c'est très important. La désobéissance, c'est aussi l'invention de nouvelles formes de vie, l'invention de nouveaux dispositifs qui vont contre le mouvement général, qui vont contre tout ce qu'on nous demande de faire. Désobéir, c'est effectivement tenter de faire changer les choses. Notre-Dame-des-Landes a été stratégiquement, politiquement, à représenter quand même un succès. Ce n'était pas donné d'avance. Toute grande forme de désobéissance doit être précédée d'un mouvement de conversion, d'un travail sur soi. C'est la grande leçon éthique ou spirituelle de Gandhi, de Martin Luther King. Et dans cette conversion, quelque chose comme l'impératif de non-violence peut être... peut apparaître. C'est-à-dire que cette non-violence, elle ne se légitime qu'à partir d'un travail intérieur. Si on désobéit, c'est par souci de soi-même. On doit se révolter de ce dont on a honte. On peut avoir honte des inégalités abyssales, à la fois de salaire, de fortune, etc. Quand on voit la manière dont notre environnement se dégrade, on peut avoir honte. Et ça, c'est un seuil important. C'est-à-dire cette honte qui fait que ça provoque une certaine colère, et oui, ce que vous appelez une indignation. La honte
c'est quand même le témoignage que ce qui arrive au monde, c'est-à-dire son état actuel, je ne peux pas m'en désolidariser complètement en disant « mais au fond, c'est les autres, moi j'y suis pour rien ». Si j'ai honte, c'est que je sens bien que je me suis rendu à un moment complice du système.
De la même manière, il y a une ambiguïté très forte qui traverse la honte. C'est-à-dire il y a toute une série de hontes qui sont les micro-hontes sociales, le sentiment de ne pas être à sa place, d'être déclassé et de sentir au fond de soi finalement la légitimité de ce déclassement. Après tout, c'est vrai, je suis nul, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on a appelé la honte-tristesse. Et très largement, cette honte-tristesse, elle nous fait obéir. C'est de la même manière que ce qu'on a pu appeler le néolibéralisme est une formidable machine à fabriquer de la honte, ça fabrique aussi de l'obéissance par la honte, c'est-à-dire au fond, on obéit parce qu'on a honte, parce qu'on s'autorise pas, etc. Mais il existe, et c'est là que la littérature nous est rendue précieuse, et aussi la philosophie après tout, puisque la honte est un sentiment révolutionnaire, c'est une citation, hein, c'est une phrase de Marx au départ, qui peut évidemment surprendre à la fois par sa force, cette espèce de claquage qu'on sent, la honte est révolutionnaire, qui nous surprend parce qu'on n'irait jamais chercher la révolution du côté de ses affects. Et donc de cette manière, on peut voir qu'une certaine honte, qui n'est pas la honte tristesse, qui est la honte colère, qui est la honte du monde, par exemple, pour reprendre une expression de Primo Levi, ou la honte rageuse, cette honte-là, elle nous fait nous lever et désobéir. Donc voilà, il y a tout un système qui fait que certaines hontes nous font obéir et nous rendent dociles, nous insistent dans notre soumission, et d'autres, au contraire, nous font nous lever et sont généreuses et révolutionnaires. Cette honte est une formidable entrée sur la condition humaine, évidemment, mais elle peut être à la fois humanisante et déshumanisante au sens où elle peut être à la fois un poison pour l'âme, quelque chose qui va nous corroder, qui va faire qu'on se déteste, qu'on se méprise, qui va nous replier sur nous-mêmes. Et en même temps, ce que Primo Levi appelle la honte d'être un homme, expression très forte, et là aussi, comme celle de Marx, très paradoxale, et que Deleuze avait relevé jusqu'à en faire le contenu de son entrée résistance dans l'abécédaire pour dire que aucune grande pensée n'a été conçue, ni aucune œuvre d'art n'a été imaginée qui n'ait eu comme source la honte d'être un homme. Et donc cette honte-là, elle est, comment dire, est-ce qu'elle est humanisante? Il faudrait distinguer deux formes de déshumanisation. Il y a la déshumanisation qui nous réduit, qui nous rabaisse et qui fait qu'on va aller du côté d'existence abâtardie parce que plongé dans le mutisme et l'effroi, parce qu'on est plongé justement dans certaines hontes, cette honte-tristesse. Et puis il y a la honte-colère qui est celle qui, par rapport à l'humanité réduite à sa caricature, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand, par exemple, pour parler de Balzac, puisque en ce moment on joue Illusion perdue au cinéma, et c'est un formidable écrivain et penseur de la honte, Balzac, puisque dès qu'on change de société, de monde, etc., cet affect, voilà, il y a un auteur qui s'appelle Derville et qui sait très bien que quand il s'agit de conclure les héritages, de partager des richesses, l'humanité montre son vrai visage. Et là, vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis l'humanité montre son vrai visage, je veux parler d'une espèce de fond, et même de bas-fond de l'humanité, qui est toute pleine d'égoïsme, de rapacité, etc. Et par rapport à cette humanité-là, la honte peut nous faire réagir et nous élever vers ce que Deleuze appelle des devenirs, ou vers autre chose. C'est-à-dire que la honte est à la fois, c'est ce qui fait sa richesse sa terrible ambiguïté, je dis bien terrible, est à la fois ce qui va nous faire descendre jusqu'au fond de la désolation d'être nous-mêmes, mais aussi ce qui nous permet de nous transformer, de nous élever, quand ce qui nous fait honte, c'est ce que Nietzsche appelle le moi supérieur. C'est-à-dire, au fond, oui, non, j'aurais trop honte de faire ça, je ne m'autorise pas certaines actions, je ne m'autorise pas certaines pensées, parce que décidément j'aurais trop honte. Et là, cette honte-là est un tremplin vers plus d'humanité, mais cette fois pas les bas-fonds décrits par Céline ou Balzac. L'humanité avec un grand H, c'est-à-dire des idéaux, c'est-à-dire des valeurs, c'est-à-dire des énergies vivantes aussi. Est-ce que la honte va être ce qui nous contraint à la solitude, au repli sur soi? Et on voit très bien quel paysage je dessine quand je cache en moi un handicap qui me paralyse, quand je dissimule des secrets de famille qui me tétanisent ou qui me terrorisent. Il y a toute une honte qui est là et qui me ferme la bouche, qui fait que je ne vais pas vouloir voir certaines choses. Donc il y a effectivement tout un côté, toute une certaine honte qui me contraint à la solitude. Et puis, quand je passe de cette honte tristesse à la honte colère, qui a une espèce de puissance et d'intensité telle que je me dis à un moment, mais au fond, la honte tristesse, ça n'est jamais que la honte d'une colère qui joue contre moi-même, qui me détruit moi-même. Quand cette colère, qui est quelque chose comme le cœur vivant de la honte, quand elle accepte de se transformer, de s'ouvrir sur et avec les autres, alors oui, ça prend une dimension collective. D'ailleurs, on peut même imaginer une espèce de dispositif qui est relativement presque enfantin, mais très efficace. Demandez à quelqu'un de faire le récit de ses hontes. Ou alors vous êtes même à 3 ou 4 et vous commencez à vous raconter vos hontes, mais vous n'imaginez pas la manière dont chacun va pouvoir se libérer par ça. C'est-à-dire que parler de ses hontes, c'est en même temps faire aveu de ses faiblesses et montrer une part d'humanité, mais cette fois au sens de ce qui se partage et qui fait que les hontes se partagent et en se partageant parviennent à se renverser, c'est-à-dire que c'est le moment où on dit, mais au fond, j'avais honte, mais c'est pas moi qui étais nul, c'était le système qui me méprisait, c'est pas moi qui étais misérable, mais c'était cette société qui, avec ses codes, me condamnait à me renfermer sur moi-même. C'est-à-dire que le partage de la honte par la parole est le moment où se joue, où s'opère cette alchimie qui fait que la honte, alors qu'elle était tristesse, marais un peu cloaqueux, devient de l'étincelle et de la dynamite.
Ça peut l'injustice et la tempête est programmée. Se bat de plus en plus vite où la guerre est proclamée. Une guerre glaciale de moins en moins discrète qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, informe l'état policier. Sors des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvelle ordre officieux, terroriste officiel. Et qu'un outil pour instaurer la surveillance et la peur. Éteignent la télé et leurs émissions d'arriérés. Éteignent la télé avant de finir complètement aliénés. Propagande de peur pour une soumission officielle. Métro pour d'odométrie officielle. Les rebelles groupes ils s'entolent. Campagne de disparition, marketing pour qu'on accepte les plus dans le corps. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos secours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Et pour bientôt, peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'État bien concis. Peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Prison à ciel ouvert, quand le crime est la norme. Quand les frontières deviennent une barricade de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre. Méfie-toi, car les arrestations deviennent des rares. Ils condamnent l'exclu en propageant l'exclusion. Exploitent les plus pauvres avant la case d'expulsion. Pour la chasse à l'enfant, des CRS dans les les écoles. Wesh, les voiles, les dérangent, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, ils pourraient plus semer le chaos. Nous on croit pas en leur justice, nous on croit en celle de là-haut. Mon frère, ne perds pas la foi, tant qu'ils n'y croient plus, on a besoin de toi. Ma soeur, on a besoin de toi, hey, oh. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des plus dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. A commencé avant même le combat. Trop de frères ont renoncé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux? Que le soleil disparaisse ou que leurs armées soient des clones. Air du nucléaire, saccageant la création. Processus établi de déshumanisation. Esprit rempli de subliminal bombardement. Les plus gros médias appartiennent aux usines d'armement. Alors comprends dans quel monde nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où ils brevettent le vivant. La science et la recherche au service de la peuple. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus le temps, hey, oh. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des plus dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous.
Et le système n'a rien sans nous. À nous de reprendre l'espace public pour récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On n'est pas le système en voulant le détruire. On est le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main. Car les leurs sont pleines de sang. Échangeons, on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et donnons plus nos compétences qu'à Babylone. Donnons-les à la résistance qui est en route. On fait tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde. Que s'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le monde. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu.
Je disais au début de cet entretien que les philosophes s'étaient peu intéressés à la honte. Ce n'est pas le cas des écrivains, et vous en convoquez un bon nombre. Camus, Kafka, Baldwin, et même Salman Rushdie à la toute fin du livre avec cette citation. Les deux principales racines de la violence sont la honte et l'absence de honte. Et ce n'est pas la même violence, ajoutez-vous.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis toujours... Comment dire, il y a une condamnation, mais qui est tout à fait compréhensible de la violence et qui fait qu'on dit toute violence est inacceptable, qui empêche aussi d'aller chercher du côté des sources même de la violence. Et je pense qu'il y a une violence qui provient d'une instrumentalisation des autres tout à fait néfaste, méprisante, de l'exploitation, enfin tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi des explosions qui sont dues au mépris ressassé, etc. Et quand je dis que c'est pas la même violence, je dis que oui, que la violence des éhontés, c'est-à-dire de ceux qui n'ont jamais honte, n'est pas superposable à une réaction d'exaspération par rapport à ceux qui sont toujours précisément dans méprisé et infériorisé, et que ça peut être libérateur, qu'il peut y avoir quelque chose de libérateur dans le fait de laisser exploser sa colère.
La guerre, la désobéissance, la honte, la colère et la violence, voici ce dont le philosophe Frédéric Gros nous a parlé dans cette émission. Alors bien sûr, nous le remercions pour ses analyses de ces thèmes qui sont chers aux pacifistes. Et je vous conseille aussi de lire les livres de Frédéric Gros qui ont pour titre « Pourquoi la guerre ?»,« Désobéir » et « La honte est un sentiment révolutionnaire ». Ces livres sont en format de poche et accessibles à tous, même aux non-philosophes. Alors merci pour votre fidélité à l'émission Civis Pacem et à l'Union Pacifiste. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Regardez-les défiler, ils ne savent ce qu'ils font, et pourtant ils s'en vont. ils s'en vont sans savoir où ils vont. Regardez-les défiler, ils n'ont pas su dire non à la voix du canon. Ils s'en vont pour le droit, pour la loi, on ne sait jamais pourquoi, et voilà, on remet ça. On leur a dit que c'était la dernière guerre. Ils sont partis sans un mot, mais ils n'y croyaient. Regardez-les s'en aller, dans quelques jours ils auront des tambours, des clairons. Ils tueront sans savoir ce qu'ils font. Regardez-les s'en aller, dans quelques jours ils auront des fusils, des canons. Ils tueront croix d'honneur, croix de voile, on ne sait jamais pourquoi, et voilà, on remet ça. La vie, l'amour, les chansons n'ont pas de frontières. Nous sommes tous les enfants de la même terre. Prends ton fusil, mon ami, c'est pour la dernière fois, on dit ça, et voilà. Pour le droit, pour la loi, on remet ça. Prends ton fusil, mon ami, si tu savais t'en servir, tu pourrais t'affranchir. Pour le droit, pour la loi, mais voilà, on ne sait jamais pourquoi ces choses-là se font pas. Regardez-les défiler, regardez-les défiler, regardez-les défiler, regardez-les défiler.